France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 14 juin. Avec vous, Mathilde Carillou, très bonne journée.
Bonne journée à tous et bonjour... bonne journée Nicolas et bonjour
merci
à tous. Pardon, le deuxième jour de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Téhéran réplique après la destruction de ses sites d'enrichissement nucléaire. Nous sommes à Tel Aviv ce matin où les dégâts sont les plus importants. Nous irons également en Égypte où la marche pour Gaza fait du surplace, arrêtée par les autorités. Et puis au salon Vivatech à Paris, découvrir la médecine de demain. Le bruit des sirènes retentit de nouveau en Israël. L'État hébreu a été visé par plusieurs vagues de missiles cette nuit tirées depuis Téhéran. Une réponse presque immédiate à la destruction de plusieurs sites nucléaires iraniens hier. Les bombardements ont fait au moins 78 morts et 320 blessés. Côté israélien, on parle ce matin de 2 morts, une quarantaine de blessés. Alors, la plupart des missiles ont été interceptés par la défense anti-aérienne, mais certains sont passés à travers. Thibault Lefebvre, vous vous êtes rendu à Tel Aviv hier soir, c'est là-bas que les dégâts sont les plus importants.
C'est une grande tour d'habitation flambant neuve, éventrée entre le 8e et le 15e étage, pas très loin du ministère de la Défense qui était vraisemblablement la cible. Un missile a frappé l'immeuble peu après 21h. Vittorio échange avec son fils Ren, il est en pleurs au téléphone. Ren habitait au 14e étage. Son appartement a été pulvérisé quand il a vu les premières images à la télévision. Vittorio, le papa, s'est précipité sur les lieux de la frappe.
Il va bien, il va bien. Il s'est réfugié dans les sous-sols, au parking, au niveau moins 5. C'est juste là, vous pouvez voir la fumée. C'est fou, oui, mais c'est notre vie. Je n'ai pas peur, je suis juste content qu'il ait survécu. Je suis très content.
Au pied de l'immeuble, des pompiers et des secouristes fouillent les décombres. Rachel observe la scène derrière un cordon de sécurité. Cette Américaine vit depuis 4 ans à Tel Aviv. Elle soutient la guerre israélienne contre l'Iran, malgré les risques.
C'est une bonne chose si cette attaque nous permet de continuer à vivre à peu près en sécurité et ne plus avoir peur d'être touché par une bombe atomique.
Et c'est exactement l'argument avancé hier par les autorités israéliennes pour justifier des frappes sur l'Iran qu'elles ont qualifiées de préventives.
Un reportage à Tel Aviv signé Thibault Lefebvre. Beaucoup de réactions entre hier et ce matin. L'Arabie Saoudite dénonce une agression contre un pays frère. La Turquie qualifie Benjamin Netanyahou de bandit. Et le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à la désescalade. Il faut que ça cesse, écrit-il sur X. La France, de son côté, réaffirme le droit d'Israël à se défendre. Emmanuel Macron l'a répété hier lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Il a également souligné que cette situation ne devait pas éclipser ce qui se passe à Gaza. La conférence de l'ONU sur la reconnaissance d'un État palestinien est par ailleurs reportée en raison de l'embrasement du conflit au Proche-Orient. Direction Gaza, justement, c'est l'objectif de plusieurs milliers de personnes d'une soixantaine de nationalités différentes rassemblées en ce moment au Caire. Ils espèrent rejoindre la frontière égyptienne de Rafah à pied pour exiger la levée du blocus. Seulement voilà, à leur arrivée en Égypte, 200 personnes ont été arrêtées faute d'autorisation. La délégation française dénonce la pression d'Israël pour empêcher cette marche. Amira Swilem a rencontré les manifestants.
Sous un soleil de plomb, Marc, Suisse de 35 ans, n'en peut plus d'attendre. Comme des centaines de personnes, il a été arrêté à un barrage filtrant alors qu'il s'était mis en route pour le nord du Sinaï, d'où il espérait atteindre la frontière avec Gaza.
On attend là, puis on va voir ce qui se passe, si je dois rentrer chez moi, si je suis un ennemi de l'Égypte maintenant, puis voilà, on verra.
Et quel message vous voulez faire passer ?
Quel message ? Laissez-nous passer, on va juste asseoir là-bas, puis rester en masse, quoi. Dire stop, ouvrez-moi ces frontières, ça suffit, là.
Comme lui, en file indienne sur le bas-côté, des dizaines de voitures patientes. Lassés, et alors que leurs passeports leur ont été confisqués, certains participants entament un sit-in. Les bras croisés, Samy, franco-palestinien, est venu avec son père et une amie depuis Paris.
Ça m'inspire de la honte pour ce gouvernement égyptien d'être là, coincé ici, alors qu'il y a un génocide qui se passe. On est tous là pacifiquement pour venir casser ce blocus et faire passer l'aide humanitaire. Et là, on voit comment on est accueilli. C'est une honte, c'est d'une complicité dégueulasse, quoi.
Une marche qui a fait du surplace. Les participants ne veulent pourtant pas parler d'échec. Leur but était aussi de montrer que les peuples soutiennent Gaza, contrairement aux grandes sommes.
Et un autre convoi terrestre est en route pour la bande de Gaza, la caravane Soumoud qui est partie de Tunis en début de semaine. En France, c'est le dernier jour de VivaTech aujourd'hui, le salon international de la technologie au parc des expositions de Paris. 14 000 startups y exposent leurs dernières innovations et Annabelle Grelier a repéré Bodio, une sorte de robot médecin qui pourrait aider, par exemple, dans les déserts médicaux.
Établir son bilan de santé en parfaite autonomie, le robot de Bodio peut effectuer une vingtaine de mesures à l'aide de capteurs, nous explique son directeur général Thierry Ménu.
Au niveau des mesures qui sont possibles, la première c'est la pression artérielle, donc la tension. L'écran se lève et dégage un orifice dans lequel on peut mettre son bras.
Émilie Sidikian se propose de faire le cobaye.
Ah ouais, d'accord, ok.
Elle est la directrice de Salesforce.
C'est tout ?
Entreprise de gestion de la relation client et intelligence artificielle. La machine de la taille d'un robot ménager possède un écran pour la téléconsultation avec un professionnel à qui seront transmises toutes les informations sur le patient.
Alors, on a le cholestérol, l'acidarique.
Là, ça, tu le testes comment ?
Alors ça, on a le capteur qui va venir prendre la petite touche de sang.
D'accord.
On le pose sur un papier pH.
Ok.
Les données, elles sont inscrites dans le robot.
Ouais.
Comme le CG, comme la température, comme l'oxymètre et comme la balance.
Oula, ça c'est quoi ?
C'est la température.
Mais alors, moi, je suis à 42, non ?
36,5. Normal.
Ah, l'oxymètre. Alors, non, mais ça, en principe, c'est bon. Ça marche, donc moi j'ai compris, donc ça c'est finalement, voilà, j'ai pas besoin de me déplacer, je suis en zone rurale ou très loin d'infrastructures hospitalières ou de points de santé, ben en fait je viens réduire la facture sur l'accès à la santé.
Le concepteur Patrice Coutard, préparateur physique de l'équipe de football des Émirats Arabes Unis pendant 15 ans, a d'abord créé son entreprise à Dubaï avant de tout rapatrier à Lyon où il a recruté ingénieurs et développeurs. Quelques villes, EHPAD et hôpitaux se sont équipés au moment du Covid, mais son marché est aujourd'hui plus particulièrement les pays où les frais de santé coûtent cher, comme l'Amérique du Nord.
Reportage Annabelle Grelier. Le temps ce matin est orageux à l'est, ensoleillé ailleurs et des températures entre 19 et 28 degrés.